VOA Afrique, les infos. À Washington.
Bonsoir l'Afrique, Morgane Diriac au micro. Dans quelques instants, le magazine au féminin avec Nathalie Barge. Mais d'abord, un tour d'horizon de l'actualité. Alors que différents secteurs nationaux et internationaux réclament une enquête indépendante sur un charnier découvert à Kinshasa, le gouvernement de la République démocratique du Congo affirme à son tour que les corps inhumés à Maluku sont ceux de mort-nés, de personnes non identifiées et d'indigents. Il ne s'agit donc pas, selon le porte-parole du gouvernement, de corps de personnes ayant pris part aux manifestations de janvier dernier à Kinshasa. Lambert Mende s'est exprimé à ce sujet lors d'une conférence de presse aujourd'hui dans la capitale congolaise.
300 bébés mort-nés, 57 personnes non identifiées, 30 personnes indigentes identifiées, 26 corps abandonnés à l'hôpital Saint-Joseph de Limété, 12 personnes abandonnées à l'hôpital général de référence de Kinshasa. Si vous faites le total de ces chiffres que je viens de vous donner, vous arriverez au montant, au total de 421 personnes. Émotion, indignation, stupéfaction, spéculation. On croirait que c'était des gens aimés de leur famille, de leur vivant, que c'était plus des indigents abandonnés. On se demande pourquoi on les a abandonnés si on les aime tant. Maintenant qu'ils sont morts, ce n'est pas une banalité que 421 personnes soient dépourvues de la chaleur d'une solidarité familiale. Nous sommes Africains, donc l'émotion est sincère. Mais nous nous connaissons et nous savons qu'il y a des émotions aussi politiquement motivées, pour être poli. Le bilan de ces événements, de 19 au 21, est connu. 27 morts officiellement. Et même les sources les plus mensongères, les plus mal intentionnées, n'ont pas dénombré 421 morts, les 19, 20 et 21 janvier. Ceux qui s'adonnent à cet amalgame tentent simplement d'alimenter inutilement la fabulation.
Le porte-parole du gouvernement congolais, Lambert Mende, un extrait que nous devons à Top Congo FM, notre station partenaire en RDC. Un mois après l'échec des pourparlers de paix sud-soudanais, les médiateurs est-africains du conflit qui ravage le jeune pays depuis décembre 2013 veulent accentuer la pression sur les belligérants en associant l'Union africaine et l'ONU aux négociations. C'est ce que nous dit Jean-Roger Billon.
Un nouveau plan de règlement est aussi en préparation, selon les diplomates interrogés par l'AFP. Il propose de nouveau un accord de partage de pouvoir entre les chefs des deux camps belligérants, le président sud-soudanais Salva Kiir et son ancien vice-président Riek Machar. Cette question est l'un des principaux points de blocage à un accord politique devant mettre fin au conflit. Le nouveau processus de négociation envisagé par l'organisation intergouvernementale est-africain IGAD et baptisé IGAD+, associerait notamment l'Union africaine et l'ONU, mais aussi la Chine qui a d'importants intérêts pétroliers au Soudan du Sud, de même que la Troïka, États-Unis, Royaume-Uni, Norvège, principal artisan de l'accord de paix signé en 2005 entre Juba et Khartoum et qui avait ouvert la voie à l'indépendance du Soudan du Sud en juillet 2011. Cet élargissement doit permettre d'accroître la pression des Africains sur les partis et resserrer les rangs au sein de l'IGAD, a su un diplomate impliqué dans les négociations. L'IGAD a également changé de stratégie en rédigeant un accord cadre à soumettre aux partis plutôt que de les laisser négocier entre elles, comme c'était le cas jusqu'ici, ce qui avait donné lieu à des discussions interminables et largement stériles.
Et nous restons dans la région. Les Soudanais s'apprêtent à voter la semaine prochaine. Omar El-Béchir, président depuis près de 26 ans, est assuré d'être réélu face à 15 concurrents peu connus. La plupart des partis de l'opposition boycottent l'élection comme en 2010. Lutte contre le terrorisme en Algérie. Le gouvernement annonce que 4 islamistes ont été tués ce matin lors d'une opération de l'armée à une quarantaine de kilomètres à l'est d'Alger. Et en Égypte, le groupe djihadiste Ajnad Misr, qui revendique régulièrement des attentats contre la police au Caire, confirme le décès de son chef, tué dans un échange de tirs avec les forces de sécurité. Violence anti-immigrants à Durban, en Afrique du Sud. Les attaques des trois derniers jours ont poussé des milliers d'immigrants, africains pour la plupart, à fuir leur maison. Les habitants de ce grand port sud-africain ont en effet juré de les expulser. Et d'après les forces de sécurité, ces immigrés ont été hébergés dans des postes de police et des tentes.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Dans le reste du monde, au Yémen, le ministère de la Défense a été touché ce jeudi lors d'un raid aérien de la coalition arabe sur la capitale. Les rebelles chiites houthis et leurs alliés contrôlent Sanaa depuis plusieurs mois. Les combats font rage au 15e jour des frappes aériennes de la coalition, tandis que les différents protagonistes du conflit multiplient les déclarations diplomatiques. Claire Morin-Gibault.
Les bombardements de la coalition dirigée par l'Arabie Saoudite sont intenses et l'UNICEF s'est de nouveau alarmée sur l'enrôlement et la mort d'enfants dans ces combats. L'agence onusienne appelant à une solution pacifique. Dans le même temps, c'est l'escalade verbale entre les différents acteurs du conflit. Washington a haussé le ton contre l'Iran, l'accusant de tenter de déstabiliser la péninsule arabique. Le secrétaire d'État américain John Kerry a affirmé sans détour que son pays savait que l'Iran armait les rebelles chiites houthis ayant pris la capitale Sanaa et de vastes régions du Yémen avant de déferler vers le sud. Les États-Unis ne resteront pas les bras croisés, a-t-il ajouté. De son côté, le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, s'en est pris à l'Arabie Saoudite dont les bombardements sont, selon lui, de véritables actes criminels. Dans le cadre du renforcement de son soutien, l'armée de l'air américaine a commencé à ravitailler en vol des avions de la coalition, selon le Pentagone. La diplomatie américaine a précisé qu'elle ne cherchait pas la confrontation avec Téhéran, mais qu'elle n'abandonnerait pas ses amitiés et ses alliances.
Dans le nord de l'Afghanistan, au moins 10 personnes sont mortes aujourd'hui dans un attentat suicide mené par des talibans. 5 membres du service de sécurité et 5 civils ont été tués. 66 autres ont été blessés, a annoncé le chef de la police de la province de Balkh, Abdul Razik Kaderi, cité par l'AFP. Les forces de sécurité afghanes ont mis fin à cette attaque contre un tribunal après 6 heures de combat. La Syrie peut maintenant compter sur l'appui des Palestiniens pour une opération contre le groupe État islamique dans le camp de réfugiés de Yarmouk. Ce camp, situé dans le sud de Damas, a été pris par les djihadistes, plaçant des milliers de civils sous la menace de l'artillerie de l'armée syrienne. Les organisations palestiniennes, à l'exception du Hamas, ont pris l'engagement de coordonner une opération de concert avec l'armée en vue de déloger les islamistes de Yarmouk. Un délégué de l'autorité palestinienne cité par l'AFP a déclaré que toute action militaire dans le camp devra éviter des destructions massives. L'ayatollah Ali Khamenei, leader suprême de l'Iran, insiste pour que soit levée dès la signature d'un accord définitif sur le nucléaire iranien toutes les sanctions des Occidentaux et des Nations Unies contre son pays. Lionel Gaïma.
L'ayatollah, qui s'exprimait pour la première fois sur l'accord cadre de Lausanne, a déclaré aujourd'hui dans un discours télévisé que cet accord ne garantit pas que des négociations aboutiront en définitive d'ici au 30 juin, l'objectif que se sont fixés l'Iran et les puissances mondiales du P5+1. Tout est dans le détail, il se peut que l'autre partie, qui est déloyale, veuille limiter notre pays dans les détails, a dit Ali Khamenei, qui a réaffirmé que son pays ne cherchait pas à fabriquer l'arme atomique comme l'en soupçonnent l'Occident et Israël. L'ayatollah a malgré tout exprimé son soutien continu aux négociations, précisant qu'il est ouvert à un compromis qui respecte la dignité et l'honneur de l'Iran. Nous ne signerons aucun accord à moins que toutes les sanctions économiques ne soient levées en même temps au tout premier jour de l'application de l'accord, a déclaré de son côté le premier ministre iranien Hassan Rouhani aujourd'hui à l'occasion de la journée nationale de technologie nucléaire de son pays.
La Grèce a versé au Fonds monétaire international 495 millions de dollars d'un paiement dû en avril, mais rien n'est certain pour la suite. Toutefois, ce remboursement confirmé aujourd'hui par la patronne du FMI, Christine Lagarde, aura pour effet de calmer les investisseurs. Athènes a annoncé hier avoir vendu des bons du Trésor pour 1 milliard 240 millions de dollars. Et puis, pour finir, après le verdict de culpabilité rendu contre Zohar Tsarnaev, l'unique accusé du double attentat de Boston, on attend maintenant la sentence. Voilà pour ce bulletin d'information. Au micro, Morgane Guiriec. Prochain rendez-vous, info dans une heure.
Soyez au cœur de l'info sur